Une bonne nouvelle d'après Matthieu, lecture suivie de l'évangile de Saint Matthieu dans une traduction transposition de Vincent Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
La scène de Césarée de Philippe, que nous venons d'entendre dans le précédent épisode, ne peut se comprendre que par l'alternance de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Je m'explique. On peut être sous l'inspiration du Saint-Esprit, de l'Esprit même de Dieu, on peut être capable de dire certaines choses. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà ce que l'Esprit inspire à Pierre. Il reçoit la promesse de l'aide de Dieu pour toutes les décisions que prendront les papes après lui. C'est une chose. Et en même temps, devant la réalité telle qu'elle est, celui qui a fait les plus belles déclarations peut n'être pas capable devant l'événement tel qu'il se présente et qu'il doit se passer. Ainsi, quand le Christ annonce pour la première fois, fait comprendre qu'il doit passer par la mort, être arrêté et être livré à la mort et ensuite ressuscité, Pierre, qui vient de dire qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, va dire quelque chose ici, jamais, c'est pas possible, etc., dans une naïveté qui n'a d'équivalent en fait que l'amour qu'il a pour le Christ. Alors il se fait remettre en place de façon relativement brutale. Arrière, Satan, tu mets un obstacle, tu ne penses pas comme Dieu, tes pensées sont pas celles de Dieu, etc., etc. Il a dû encore là se dire qu'il aurait mieux fallu se taire. C'est ça qui prépare le choix que Jésus fait une deuxième fois de Pierre avec maintenant Jacques et Jean, comme je l'annonçais dans les épisodes précédents, de se révéler à lui, à eux, par ce qu'il est, au-delà de toutes apparences. En effet, nous allons commencer par ce qu'on appelle la transfiguration. Et cela va écarter encore beaucoup de doutes. On sent que cette montée à Jérusalem est une catéchèse spécifique pour les apôtres. Il faut écarter tout doute avec Jean-Baptiste, par exemple. Jésus n'est pas la réincarnation de Jean-Baptiste qui a été mis à mort. Jésus est Jésus. Deuxièmement, il n'est pas seulement un homme. Il est beaucoup plus que cela, tout en étant un homme complet. Et donc, il faut arriver à travers l'homme à reconnaître Dieu. C'est une catéchèse qui va arriver jusqu'à Pâques, jusqu'au tombeau vide.
Six jours après ces événements, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Les autres ne demandèrent aucune explication. Ils regardèrent s'éloigner leurs trois compagnons qui se retournèrent plusieurs fois en leur faisant comprendre qu'eux-mêmes ignoraient tout du but de cette excursion. Jésus se dirigeait vers une petite montagne assez haute pour le pays des plaines et des collines qu'est la Galilée. Ce site est très beau. Le vent joue avec les hautes herbes, l'air est revigorant. Jésus se détachait sur un ciel sans nuages. Soudain, il changea complètement d'aspect. Une véritable métamorphose. De son visage émanait une lueur insoutenable. Son vêtement devenait une lumière brillante. Les apôtres devaient mettre leurs mains devant leurs yeux pour regarder dans sa direction. Et puis, ils distinguèrent tout à coup deux autres figures aux côtés de Jésus. Apparemment, c'était Moïse et Élie. Et ils les entendaient converser ensemble. Dans sa spontanéité naïve et admirable, Pierre risque une proposition. « Seigneur, il ne se rendait vraiment pas compte, on est très bien ici. Si tu veux, je vais bâtir trois tentes pour vous trois. » Jacques et Jean tâchaient de le faire taire, car c'est une espèce de nuage lumineux se posait sur la montagne, tandis qu'une voix semblait en sortir. Et on entendit très clairement. « Voici mon fils bien-aimé, il est toute ma joie. Écoutez-le. » Les disciples tombent tête contre terre. Ils tremblent de peur, mais une main leur touche l'épaule. C'est Jésus qui leur sourit. « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils regardent tout autour et ne voient plus personne. Jésus est de nouveau seul, et il amorce déjà la descente. Il court pour le rattraper. Ne parler à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne revienne de la mort. Ils se turent un moment, mais il fallait qu'ils disent quelque chose. Tout cela était trop mystérieux. Pourquoi les pharisiens disent-ils qu'Élie doit tout remettre en ordre? Pourtant, je vous dis qu'Élie est déjà venu. Mais ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Et ils maltraiteront aussi le Fils de l'homme lui-même. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Ils n'avaient pas vu le temps passer. Ils arrivaient maintenant à l'endroit où on avait laissé le reste de la troupe. Beaucoup de gens sont là. On voit que Jésus est de retour. Un homme court vers lui, tombe à genoux et le supplie. « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Ses crises le font souvent se jeter dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples, mais ils n'ont rien pu faire. »« Ah !» s'écria Jésus. « Que vous pouvez être de mauvaise foi. Combien de temps vais-je rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je encore vous supporter? Amenez-moi cet enfant. » Jésus somme le mauvais esprit d'abandonner le garçon. « Voilà, c'est fait. » Mais c'est maintenant au tour des disciples de l'entourer de questions. « Pourquoi n'avons-nous plus rien faire ?»« Parce que vous ne croyez pas assez. Si vous aviez un minimum de foi, oui, je dis bien, un minimum, vous déplaceriez des montagnes. » Rien ne vous serait impossible. Puis il ajouta presque en aparté, comme s'il le parlait à lui-même, la prière et la pénitence. Voilà comment on lutte contre l'esprit du mal. Les voici de nouveau sur les routes de Galilée. On parle tout en marchant. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Ils le mettront à mort. Mais le troisième jour, il se réveillera. On est tout triste. C'est dans cette atmosphère que l'on arrive à Capharnaüm. Et on tomba sur les précepteurs de l'impôt du temple. Ils s'adressèrent à Pierre qui les tranquillisa. Oui, Jésus payait régulièrement. Une fois à la maison, Jésus le devança. « Simon, dis-moi un peu, qui doit payer la taxe de l'impôt ? Les citoyens du pays ou bien les étrangers ? Les étrangers, bien sûr. Les citoyens en sont donc exempts ? Pourtant, Simon, nous ne voulons choquer personne. Tu vas aller jusqu'au lac jeter un hameçon. » Le premier poisson que tu attraperas, ouvre-lui la gueule. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et va leur donner. Elle paiera ton impôt et le mien. » Pierre sourit et sortit.
Et voilà. Et nous avons commencé cet épisode dans une toile de fond dramatique très intense. Et nous terminons avec une pirouette. Est-ce qu'elle est typiquement mathéenne? Est-ce que Jésus se plaisait à ces choses-là? Moi, je suis persuadé qu'il s'y plaisait. Jésus n'est pas un homme avec qui on s'ennuyait. Son destin était le sien. C'était tragique. Mais cet épisode de l'impôt, où Pierre disait, mais bien sûr, nous payons l'impôt. Et Jésus, qui par une petite parabole lui fait comprendre qu'ils n'ont pas à le payer, puisqu'ils sont des citoyens du royaume, et lui dit, ben on va quand même payer, mais tu vas aller au lac, on va faire un tour de prestidigitation, je suppose. Et le premier poisson que tu attraperas, tu lui ouvres la gueule, il y aura un sesterce pour toi et pour moi. Et ravi de cet aparté, et puis de cette petite connivence, Pierre sort en riant et va chercher cela. Mais naturellement le cœur, même peut-être, parce que le cœur est très important, qu'il faut cette anecdote à la fin de cette révélation dans un montage littéraire parfait. Le cadre, le moment Jésus au milieu, la petite note ridicule de Pierre qui n'en loupe vraiment pas une, hein, comme si on allait construire des tentes pour les ectoplasmes que sont Élie et Moïse, comme si on allait rester sur la montagne pendant longtemps. Les deux autres plus jeunes ont beau demander à Pierre de se taire parce que une voix tombe. Donc il y a une mise en scène parfaite. Tous les éléments sont là, et même l'élément, je répète légèrement, ironique. Mais pourquoi, et c'est la question que pose ce texte, pourquoi l'apparition dans le rapport qu'en fait Matthieu et son équipe de Moïse précisément et d'Élie? Eh bien, vous l'avez deviné, Moïse, c'est la loi, c'est la Torah, c'est la loi de Dieu, ce sont les 5 livres de l'Ancien Testament considérés par les Juifs pieux comme étant la loi même de Dieu, que Moïse aurait même écrit de sa propre main. Il aurait dû vivre près de 600 ans pour le faire. La Genèse, le Deutéronome, les Nombres, le Lévitique, et l'Exode, bien sûr. Et Élie, alors, Élie, c'est toute la série des grands prophètes. Il représente Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, Amos, et lui-même. Élie, parti au ciel avec un char de 4 chevaux. Il reviendra, il est déjà revenu. Tous ceux qui viennent annoncer Dieu, on les voit, on les voit pas, on les met à mort. Ah, ils comprirent que c'était le Baptiste. Vous voyez, tout cela est un jeu d'allusions qui suppose une connaissance des textes, et ces gens connaissaient leur Bible. Comme nous passons trop souvent à côté du sens profond de ce que nous rapportent Matthieu et les autres, parce que notre culture et ces textes-là sont remplis de culture et si pauvres. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut lire l'Évangile et la Bible, qu'il faut devenir sémite pour être chrétien.
C'était une bonne nouvelle selon Matthieu, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.